les animaux sont frères. Maintenant et à jamais, les animaux sont tous égaux. L'heure a sonné de l'arrivée.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire. Les animaux font-ils partie de notre histoire? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre cette semaine avec l'historien Éric Baratet. Aujourd'hui, troisième épisode, l'animal-machine de la révolution industrielle. Contrairement à une idée reçue, la révolution industrielle en Occident à partir du XVIIIe siècle doit moins à l'essor de la machine qu'au travail des humains, ouvriers et ouvrières, et à celui des animaux. Si au Moyen-Âge, on l'a vu, les animaux sont partout, à gambader dans les fermes et dans les rues des villes, à partir du XVIIe siècle et de plus en plus les siècles suivants, l'utilisation des chevaux, des bœufs, des ânes, des mulets et même des chiens ne va pas cesser de s'intensifier et de se rationaliser. Dans les champs, dans les usines, ce sont eux qui actionnent les machines, soulèvent et transportent les charges, qui tirent les charrues sur les routes. Ce sont eux aussi qui assurent le transport en ville. À Londres, on estime qu'il y a 500 000 chevaux au tout début du XXe siècle. À Paris, leur nombre a doublé dans la seconde moitié du XIXe siècle. Il faudra attendre la fin de la Première Guerre mondiale et surtout la fin de la Seconde pour que les animaux de travail soient remplacés par des machines. Jusqu'alors symbole de richesse, l'animal qui fièrement tirait la charrue ou la diligence et qui maculait la chaussée de ses crottes sans que personne ne s'en offusque, va devenir progressivement l'expression, au contraire, d'un ancien temps arriéré et révolu.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
À la tête de ce train de berline, un cheval, un des derniers chevaux de la mine, ça.
Oui, c'est un des derniers du siège 12, il y en a encore trois.
Mais bien sûr, comme tous les chevaux qui vivent au fond de la mine, il est aveugle,
disons. Non, pas du tout, au contraire, c'est un cheval qui voit très clair. Cette légende des chevaux aveugles date de Zola, est absolument périmée, il n'a d'ailleurs jamais existé.
Je crois qu'il est malin aussi, ce cheval.
Oui, il est très malin.
Il tire combien de berlines à la fois?
Il en tire 12.
Et si vous en mettez 13?
Ah, il ne le tirera pas.
Je crois aussi qu'il aime les friandises.
Oui, il aime les friandises, par exemple, comme des bonbons, vous voyez.
Si vous voulez lui en envoyer, vous lui ferez plaisir. Il habite au siège 12 de Lens, Pas-de-Calais.
Là où l'animal, depuis le début de la révolution industrielle, a été le plus utilisé, pour ne pas dire réduit en esclavage, est la mine de charbon. Ce sont les chevaux, les ânes, les mulets, les poneys qui, aux côtés des mineurs, servent à extraire le minerai et à tirer les wagonnets au fond de la mine. Pour les descendre, en bas, les chevaux sont entravés des quatre pattes, sanglés à un harnais solide et descendus en position verticale vers le fond. Chose qui nous semble incroyable, ils sont descendus pour souvent ne jamais remonter. Il arrive que des chevaux vivent au fond de la mine jusqu'à 10 ou 20 ans sans revoir la lumière. La remontée des chevaux se généralisera dans les années 1920, époque où en France, on estime qu'il y a environ 10 000 chevaux dans les mines. Dans les années 60, ils seront remplacés par des machines. Émile Zola, dans son roman Germinal, rend hommage à ces chevaux de la mine, véritables compagnons d'infortune du mineur. Il raconte en particulier le sort d'un cheval blanc, nommé Bataille, devenu le doyen de la mine. « Depuis 10 ans, raconte Zola, il vivait dans ce trou, faisant la même tâche le long des galeries noires, sans avoir jamais revu le jour. La voie où il travaillait avait fini par lui devenir si familière qu'il poussait de la tête les portes d'aérage et qu'il se baissait afin de ne pas se cogner aux endroits trop bas. Maintenant, l'âge venait, ses yeux de chat se voilaient parfois d'une mélancolie et il restait la tête basse, tremblant sur ses vieux pieds, faisant d'inutiles efforts pour se rappeler le soleil. » Éric Baratet, la conscience du rôle des animaux dans la révolution industrielle est très récente.
Oui, mais les gens de l'époque l'avaient très bien en tête. Hein. Les gens de l'époque, évidemment, les voyaient, ces animaux. Hein, et jamais on n'avait eu autant d'animaux de travail qu'au XIXe siècle. Et l'apogée, c'est évidemment, vous l'avez dit, c'est 1914. Hein, jamais il y a eu autant de chevaux. Il y a aussi des chiens de travail, par exemple. Ça aussi, nous l'avons complètement oublié, des chiens qui pouvaient tirer des charrettes pour des commerçants, des artisans. Parce qu'un chien, ça coûte moins cher qu'un cheval. Il n'y a pas besoin de l'acheter. Hein. Dans les campagnes, on se donne les chiens. Et puis, ils mangent du pain. Il n'y a pas besoin d'avoir un pré ou de l'herbe, etc., etc. Ça coûte bien moins cher. Et puis, il y a beaucoup de chiens qui sont aussi des chiens d'artisans, qui sont là, par exemple, pour faire tourner des roues et enclencher des forces mécaniques pour des aiguiseurs, par exemple. Hein. Ou alors, à Thiers, à l'époque, hein, la ville de Thiers, dans le Massif central, qui était l'une des capitales du couteau, la coutellerie. Mmh. Les couteliers étaient couchés sur une planche. Ils étaient penchés en avant en direction des meules pour aiguiser les couteaux. Donc, bras et tête en avant, un peu dans le précipice. Et pour éviter qu'ils tombent sur les meules, eh bien, des chiens étaient couchés au niveau de leurs genoux, hein, couchés sur leurs jambes, ça faisait contrepoids. Alors là, le chien ne travaillait pas vraiment, hein, mais on employait énormément d'animaux, les bœufs, les vaches dans les campagnes, hein, les vaches polyvalentes, qui étaient là pour tirer la charrette, tirer la herse, la charrue, pour donner un veau de temps en temps, etc., un peu de lait. Le travail des animaux était évidemment omniprésent. Et comme vous l'avez dit, c'est le corollaire complet de la révolution agricole et de la révolution industrielle.
Et pour assurer cette production agricole et industrielle, on a besoin donc de plus en plus d'animaux. Il y a un développement forcément de l'élevage.
Oui, parce que parallèlement à ces révolutions, il y a aussi une augmentation du niveau de vie. Hein. Alors, inégalement, évidemment, mais tout de même sur le siècle, c'est évident. Et donc, on va se mettre, par exemple, à consommer plus de lait qu'autrefois. Le lait, autrefois, était un médicament, un fortifiant. Et on va en faire un aliment du quotidien. Donc, il faut produire du lait. Donc, il faut avoir beaucoup plus de bovins ou de chèvres. Hein, on consomme encore beaucoup de lait de chèvre au 19e siècle. Hein. Proust en parle dans La recherche du temps perdu. Hein, il raconte qu'il y a le chevrier qui passe dans sa rue tous les matins. Et Françoise, la gouvernante, descend avec un bol. Le chevrier trait une des chèvres et Françoise ramène un bol de lait tiède à Marcel qui le boit tous les matins et c'est son petit déjeuner.
Est-ce que cette révolution industrielle a pour conséquence une distanciation entre les humains et les animaux ? Quelque chose de plus industriel, de plus rationalisé ?
Alors oui, non. Dans les campagnes, non, parce que on sent bien que les animaux et les paysans sont assez proches. Hein. Il y a une compréhension réciproque, notamment entre paysans et cheval, hein, ne serait-ce que pour que les travaux soient bien faits. C'est plus compliqué, évidemment, dans les grandes compagnies qui emploient beaucoup de chevaux. Alors les compagnies de tramway, les compagnies minières, évidemment, hein, où là, on a beaucoup de documents. Et qui montre bien évidemment que on emploie beaucoup de personnel et ce personnel n'est pas forcément adapté aux chevaux. Il n'a pas forcément envie de comprendre ce qu'est un cheval. Il n'a pas envie forcément de faire des efforts et peut employer la violence. Et toute la grande question de ces compagnies à l'époque, hein, les textes le disent bien, c'est de trouver le bon conducteur. Parce qu'on sait très bien à l'époque que un cheval a besoin d'être en confiance pour pouvoir bien travailler. Un cheval battu ne va pas bien travailler. D'ailleurs, j'avais trouvé le témoignage d'un vétérinaire qui disait que lorsqu'un cheval qui s'était comporté normalement se mettait un jour à s'arrêter, à ne plus vouloir travailler, donc à faire grève, littéralement, eh bien, c'était le signe qu'il avait été battu. Et très souvent, c'était le fait qu'il venait d'avoir un nouveau conducteur et que ça se passait mal. Et des réactions comme ça de chevaux, on en a plein qui nous racontent, par exemple, des vétérinaires qui nous disent que le cheval battu, à un moment, dans une galerie, rencontre celui avec qui ça s'est mal passé et hop, il en profite pour le mordre ou lui donner un coup de sabot parce que les chevaux discriminent très bien les humains, à la fois par le visage, langage, par les odeurs, par les comportements, etc.
Est-ce que les syndicats ont parfois pris la défense des animaux au 19e siècle ?
Oui, pour les chevaux de mine, par exemple, dans l'entre-deux-guerres, hein, on voit très bien, on a des documents là-dessus, comment à partir des années 1910-1920, des syndicats comme la CGT, par exemple, vont faire campagne pour que les ouvriers, soient les mineurs, soient beaucoup plus respectueux de leurs chevaux. Et l'argument, c'est de leur dire que ce sont leurs compagnons de misère, hein, et qu'ils travaillent ensemble et qu'il faut donc les respecter. Et on voit très bien comment au XXe siècle, effectivement, dans les mines, le statut du cheval s'améliore. Le reportage que vous avez fait écouter le montre bien. Hein. Ouais. Là, on est dans les années 60-70.
Exactement.
Et grâce aux ascenseurs, on peut sortir le cheval tous les jours. Hein, ce qu'on ne faisait évidemment pas à l'époque de Zola, hein, où là, on descendait le cheval et il y restait 5 ans, 10 ans.
Ouais.
Pas forcément jusqu'à mort, parce que s'il était trop fatigué, s'il pouvait plus travailler correctement, eh bien, on le remontait et on le vendait, par exemple, aux paysans dans les campagnes, voire à la boucherie hypophagique, dans la seconde moitié du 19e siècle.
Merci Éric Baratet. Dans le prochain épisode, nous parlerons des animaux dans la guerre.